Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Il est important de remonter aux origines de l'humanité pour mieux comprendre notre histoire, ainsi que celle du monde d'aujourd'hui.
Et le récit de nos origines se trouve dans le livre biblique de la Genèse. Voilà pourquoi nous consacrons du temps pour étudier les chapitres 2 et 3 de ce livre.
Écoutons pour commencer la lecture de Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de notre invité Étienne.
L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria : Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un.
Merci Sandra et bonjour Étienne. Merci d'être de retour parmi nous.
Avec plaisir Yann et bonjour à tous.
La dernière fois nous avons appris qu'il manquait quelque chose à l'homme. Un élément était encore absent dans la création. Et ceci malgré le fait que l'homme vivait dans un endroit idyllique et que Dieu était avec lui.
C'est exact Yann, Dieu n'avait pas encore achevé son œuvre créatrice. Il créa l'homme pour qu'il vive en communauté. Et c'est la raison pour laquelle Dieu créa ensuite la femme. D'ailleurs, aujourd'hui notre sujet de discussion portera sur la place de la femme auprès de l'homme.
Dieu déclara donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis il ajouta, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis.
Oui, Dieu montra à l'homme qu'aucun animal ne pourrait jamais jouer ce rôle. Puis l'Éternel créa la femme.
Parlez-nous de la place de la femme en tant qu'aide et de vis-à-vis.
Oui, il est important de comprendre ces notions d'un point de vue biblique et de ne pas en tordre le sens pour justifier de mauvaises attitudes.
Merci de bien vouloir nous éclairer sur ce point.
L'idée principale qui se dégage de ce texte est que l'homme et la femme se complètent. Il manque quelque chose à l'homme qui vit seul. Il en est de même pour la femme qui est seule. Ensemble, un homme et une femme forment un couple. Ils peuvent réaliser davantage de projets, mieux jouir de la vie, se soutenir, s'encourager. Un homme et une femme sont fort différents. Le couple qu'ils forment est comme une équipe où chacun doit jouer son rôle. Si une équipe de foot n'était constituée que de 11 gardiens de but, elle serait vouée à l'échec. Car une bonne équipe de foot est composée d'attaquants, de milieux de terrain, de défenseurs et d'un gardien de but. Il en est de même pour le mariage. Chaque membre doit y tenir sa place, son rôle, et le remplir pour le bien de l'autre, et non pour assouvir ses propres désirs. L'homme et la femme sont différents et toutefois égaux. Voilà pourquoi les couples devraient se compléter et contribuer au bien de l'autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a conçu les êtres humains à l'origine des temps.
Nous verrons dans une prochaine émission pourquoi l'expérience de beaucoup de couples ne répond pas à cet idéal. Mais Étienne, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il est possible de tordre le sens de ce texte fondamental sur la création de la femme. Dites-en-nous davantage.
Oui, je voudrais souligner que toute pensée affirmant que l'homme est supérieur à la femme est tout à fait absente de ce récit. Nous ne devons pas conclure du fait que l'homme fut créé avant la femme qu'il est un être supérieur ou meilleur qu'elle. Nous ne devons pas conclure non plus du fait que la femme fut créée pour aider l'homme qu'elle occupe un rang inférieur. Malheureusement, tout au long de l'histoire, les hommes ont eu tendance à abuser de leur force physique pour dominer les femmes et les réduire quasiment à l'état d'esclave. Parfois, certains hommes se servent même de Genèse chapitre 2 pour justifier cet état de choses. Ce texte n'encourage nullement des relations semblables à celles qui s'établissent entre un être dominateur et un autre dominé. Non, il encourage plutôt une relation d'entraide, de soutien, d'amour entre deux personnes égales qui se complètent et œuvrent pour l'épanouissement de l'autre.
Et nous constatons dans le texte lu la joie de l'homme quand il rencontre pour la première fois la femme que Dieu a créée pour lui.
Tout à fait. L'homme à présent n'est plus seul. Il est satisfait, il se sent épanoui. Une fois de plus, Dieu lui a prouvé sa bonté. Véritablement, tout ce que l'Éternel a créé est bon et parfait.
Merci Étienne. Et pouvez-vous alors commenter le verset où Dieu annonce « C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Il évoque le mariage, me semble-t-il.
Oui, Yann, c'est exact. Le dessein de Dieu pour l'homme et la femme est que, lorsqu'ils ont atteint une certaine maturité, ils quittent le foyer où ils ont grandi pour vivre en couple et créer une nouvelle famille. Dans toute culture, dans toute société, le fait de commencer officiellement une vie à deux fait l'objet d'une cérémonie et d'un contrat légal appelé le mariage.
Et que pouvons-nous apprendre des desseins de Dieu pour le mariage?
Les mots « un homme s'attachera à une femme » sont importants. Nous pouvons en conclure que la polygamie, c'est-à-dire un homme vivant avec plusieurs femmes, ne correspond pas à la volonté de Dieu. De même, il n'est pas selon le plan de Dieu qu'un homme s'attache à un autre homme, ou une femme à une autre femme. Dans cette relation intime et privilégiée que nous appelons le mariage. Et puis les mots « les deux ne feront plus qu'un » impliquent une permanence. Le dessein de Dieu pour l'être humain est que le mariage dure la vie entière. Une fois unis, l'homme et la femme ne devraient plus se séparer. Ils devraient rester fidèles l'un à l'autre.
Puis, à la fin de ce chapitre 2 du livre de la Genèse, l'auteur nous apprend que l'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Que signifie cette phrase?
La nudité en Genèse 2 est associée à l'innocence. L'homme et la femme n'avaient rien à se cacher, ils n'éprouvaient pas non plus le besoin de se cacher devant Dieu. Tout sentiment de honte nous pousse à cacher nos activités pas très claires, à faire en sorte que personne ne les voit et que Dieu ne remarque rien. Souvenez-vous qu'en Genèse au chapitre 2, ce premier couple vivait encore au jardin d'Éden, le paradis. Tout y était merveilleux, parfait. La prochaine fois, nous aborderons le chapitre 3 du livre de la Genèse et nous constaterons que les choses iront de catastrophe en catastrophe. Aujourd'hui, j'ai insisté sur le fait que le mariage est un moyen de combattre la solitude et d'atteindre un certain épanouissement. Dans une prochaine émission, en abordant Genèse chapitre 3, nous aurons l'occasion de comprendre pourquoi, pour beaucoup, cette expérience du mariage ne correspond pas à l'idéal décrit en Genèse 2. Toutefois, toute expérience négative ne doit pas nous conduire à rejeter le mariage. Loin de là, le mariage demeure le dessein de Dieu pour l'homme et la femme. Bien vécu, il est merveilleux. Toutefois, parce que nous ne vivons plus dans le paradis, il nous faut travailler pour le protéger et rendre notre conjoint heureux. Cette tâche peut s'avérer difficile, mais avec l'aide de Dieu, rien n'est impossible.
Merci Étienne de nous avoir éclairé sur les desseins de Dieu pour les hommes et les femmes, ainsi que sur l'importance du mariage et sa nature.
Merci Étienne. Le Nouveau Testament lui aussi nous parle du mariage et nous révèle ce à quoi tout chrétien devrait aspirer. Je vais vous lire à présent l'un de ces textes.
Il s'agit de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 33. Cette lecture biblique assez longue ne sera pas suivie par une méditation.
Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, De même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari.
Merci, Hélène. Ces paroles rappellent l'amour de Jésus pour son peuple, son Église. Un amour fidèle, constant et patient. En retour, l'Église aime Jésus car il est son Sauveur. Cet amour s'exprime par une soumission confiante envers lui, le Seigneur. Si nous aspirons à ce que notre mariage soit béni, nous devons prendre pour modèle Jésus qui aime l'Église, jusqu'à la servir et donner sa vie pour elle.
Merci, Yann. Durant plusieurs émissions, nous avons décrit le paradis que Dieu a créé pour les hommes. Ce monde semble bien lointain et perdu. La prochaine fois, nous commencerons à étudier le chapitre 3 du livre de la Genèse et nous découvrirons ce qui plongea l'humanité dans le mal et le malheur.
En attendant de vous retrouver, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons au revoir.
Au revoir. Et que Dieu vous bénisse.